d'être en famille et l'amitié depuis 20 ans hein, avec les jolies, avec Stéphane aussi. Et voilà, c'est une bande de potes hein, qui travaillent depuis des années à creuser, à déboucher. Et cette qualité d'amitié donne beaucoup de force. Et je crois que le Seigneur a prévu que nous œuvrions dans son royaume avec des relations d'amitié. Et les amis, c'est important. Alors, vous savez quel jour on est quand même aujourd'hui? Vous avez une idée de, pas seulement un dimanche, mais c'est quoi? C'est Pentecôte, hein? C'est Pentecôte. Et hier soir, j'étais travaillé, j'avais prévu quelque chose sur la transmission, ça sera toujours le cas. Mais franchement, je ne pouvais pas donner ce que j'avais prévu. Et je me disais, mais il y a quelque chose là. Et puis, il y a, voilà, j'aimerais partager sur la transmission. Mais le thème de ce matin, c'est l'éducation et l'esprit, la Pentecôte et l'école. Ah, quel est le rapport, mes amis? On va le voir. Alors, on fête aujourd'hui la fête de Pentecôte, Shavuot hein, pour les Juifs. Et nous sommes donc à 50 jours hein, de Pâques. Et on se rappelle qu'à Pâques, hein, au moment de Pâques juive, Jésus a été crucifié, au moment où tous les Juifs sacrifiaient l'agneau, en souvenir de la première Pâque, du passage de la mer Rouge. 50 jours après, nous voici à la Pentecôte, le jour où les Juifs se rappellent l'arrivée au pied du Sinaï, conduit par Moïse. Et là, ils assistent à vraiment une théophanie, une manifestation de Dieu sur cette montagne qui prend des couleurs, qui fait du bruit, qui fait peur à tout le monde. Dieu parle, Dieu fait alliance et Dieu donne un don extraordinaire à Israël, c'est le don de la Torah. Et cette fête de Pentecôte que les chrétiens vont fêter aussi, que le Saint-Esprit va venir, justement, alors que l'on célèbre cette venue avec Moïse pour recevoir cette table de la loi, cette alliance que Dieu a faite avec ce peuple d'Israël. Mais pour ça, voyez, ce Shavuot, cette Pentecôte, je vous propose de revenir à cette premier passage du peuple d'Israël qui sort d'Égypte. Et je rappelle, l'appel de ce peuple, c'était d'être une bénédiction pour toutes les nations. Et donc, il était esclave. C'est impossible de rentrer dans un appel de Dieu avec une mentalité d'esclave. Et on l'a chanté tout à l'heure, on n'est plus des esclaves. Mais pour ça, il a fallu que Dieu forme. Il a fallu qu'il transforme, il a fallu qu'il éduque, il a fallu qu'il conduise. Et donc, il a levé un conducteur, et le conducteur, ça a été Moïse. Et dans ce rapport Pentecôte-éducation, on se rappelle qu'il n'y aurait pas eu de Moïse sans une vision de parents. Et c'est ça qui est important, on voit dans Actes 7, verset 20, à cette époque, naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Alors, c'est une chose qu'un enfant soit beau aux yeux de Dieu. D'ailleurs, nous sommes tous beaux aux yeux de Dieu. Vous l'êtes ce matin d'une façon extraordinaire. J'aimerais le dire, souligner, hein, Stéphane, c'est pas. Mais l'important, c'est de le voir aussi, nous, Hébreux 11, 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Ils ont aligné leur vision à la vision de Dieu. Et cet alignement de vision a permis à Dieu de lever un conducteur. Et conduire, c'est le premier mot historiquement en français pour parler des instituteurs, institutrices. On les appelait les conductrices. Début 19e, c'est le premier mot, conduire. D'ailleurs, la pédagogie, ça veut dire conduire. Conduire vers qui? Conduire vers Dieu pour nous. Et nous avons ici dans Moïse, voilà, donc Moïse, il n'est pas venu Dieu qui choisit un homme, qui dit vas-y, fais-le. Non, non. Dieu travaille avec les parents. Il n'y a pas de Moïse au 20e siècle sans parents qui aient une vision de Dieu pour leur enfant. Et cet alignement est tellement important. Et la notion d'école chrétienne et d'éducation chrétienne au sens large, c'est une vision de parent. Le mot parent, ça veut dire parer. La destinée d'un parent est de parer des enfants. Les préparer. C'est ça le mot. Hein. Et nous voyons Moïse qui se lève, éduqué déjà petit par, dans la pensée hébraïque, mais en même temps comme un prince d'Égypte. Et cette double éducation a posé problème. Et ça a posé problème parce que quand il y a eu ce combat avec un Hébreu qui était malmené par un Égyptien et Moïse qui sentait l'appel de Dieu, il sentait cet appel, mais il ne savait pas trop alors, comment réagir par rapport à cette situation. Alors il a réagi comme il a appris, c'est-à-dire si tu es fort, tu cognes, tu es un prince. Alors il a frappé, voilà. Il voulait plaire à Dieu, il voulait faire quelque chose, mais il l'a fait avec sa mentalité qui lui a été aussi transmise et ça lui a valu 40 ans de désert. Et ces 40 ans de désert ont été l'école de Dieu pour Moïse pour désapprendre. 40 ans. Ça va être très différent avec Timothée qui, tout jeune, grandit droit et n'a pas 40 ans de désert à faire. Aujourd'hui, Dieu est un Dieu qui veut lever une génération, lui éviter les 40 ans de désert et donner une vision aux parents pour lever des conducteurs. Exode 10, donc on arrive à Shavuot, là, hein, donc Moïse, il est devant Pharaon, et verset 9 à 11, il dit, « Nous irons avec nos enfants, nos vieillards, nos fils, nos filles, nos brebis, nos bœufs, c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. » Et Pharaon leur dit, « Que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. » Il craque, quoi, au bout d'un moment, le Pharaon, il en a marre de ce Moïse, donc il dit, « Bon, allez, allez-y !» Et puis alors là, le verset 11, vous avez réalisé ce verset 11, « Mais non, non, allez-vous les hommes !» Et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Autrement dit, les femmes et les enfants, vous restez. Les hommes, allez-y, sacrifiez, servez Dieu, là, ça ne me gêne pas. Mais ce qui gêne Pharaon, c'est les femmes et les enfants. Ça le gêne. Des hommes qui se lèvent pour servir Dieu ne gênent pas l'ennemi autant que des hommes accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Dieu dit... Moïse dit, c'est ou tout le monde qui sort, ou personne. Et aujourd'hui, Dieu appelle une génération, mais c'est tout le monde. Et c'est tout le monde. Sinon, on reste tous dans cette Égypte. Et donc, l'appel de Dieu pour ce peuple est une bénédiction pour les nations. C'est quand même étonnant, on le disait un peu hier. Moi, ça me stupéfait toujours, mais je comprends maintenant. Dieu commence par sortir ce peuple de la nation. Il était appelé à bénir l'Égypte comme les autres nations. C'était la destinée d'Israël. Et Dieu commence par sortir des nations. Ça, c'est l'éducation selon Dieu. Il arrache des systèmes de pensée de mort et de culture de mort pour enraciner dans une autre culture qui est une culture de vie et une culture du royaume. Et ça se passe dans le désert. Et donc Dieu, la Bible nous dit que Dieu, d'abord c'est Moïse qui a conduit le peuple, mais en fait c'est Dieu qui conduisait. Et il est dit dans Deutéronome 32, versets 10 à 12, il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, son peuple. Il en a pris soin. Prendre soin, c'est le mot bin en hébreu, ça veut dire enseigner, entre parenthèses. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Ça, c'est le côté maternel de Dieu. Dieu qui conduit, Dieu l'éducateur, Dieu qui fait sortir d'Égypte, Dieu qui prend soin. Et il a dit, l'Éternel seul conduit son peuple et n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Des siècles plus tard, Jésus, quand il enseignera sur le bon berger, il va dire le bon berger conduit ses brebis dehors. Il emploie le mot educit. En latin, c'est educit, c'est éducation. Conduire, c'est éduquer. C'est le même mot en français, c'est la même étymologie, c'est la même chose. Et d'ailleurs, nous avons un mot très important, c'est le mot apprendre, lamed. En hébreu, c'est la forme, la lettre a la forme d'un bâton de berger. Un bâton comme ça, avec un rond, c'est pour conduire. Voyez, apprendre, c'est conduire. Ça désigne enseigner, lamed, enseigner, apprendre. Et lamed, alors moi, c'est un truc pas possible. Ça. Il y a trois lettres, hein, on ne prononce pas les voyelles. C'est le lev Ensuite, vous avez le mévin, le dat. Ça veut dire exactement, écoutez ça, un cœur, lev, la lettre lev, ça veut dire cœur, qui comprend, mévin, dat, la connaissance. Donc, c'est une affaire de cœur. Dieu, l'éducation, le cœur de l'éducation, c'est l'éducation du cœur. Voilà. Et là, à partir du cœur, jaillissent toutes les sources de la vie, dit Dieu. Tous les systèmes philosophiques viennent du cœur de l'homme, d'un choix que les hommes ont fait pour ou contre Dieu, et justifient ce choix par des systèmes de raisonnement, rationalisme, humanisme, scientisme, existentialisme, etc. Ça vient du cœur. C'est pour ça que Dieu veut toucher les cœurs. Une éducation chrétienne touche le cœur, la racine de l'être. D'ailleurs, Dieu dit au travers de Salomon à David, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et le cœur, c'est le lieu de la volonté, c'est le lieu des émotions, c'est le lieu de la pensée, le cœur. Tu vas aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, c'est-à-dire de toute ta pensée, de toute ta force. Les pensées de l'homme, elles nichent dans le cœur de l'homme. Et quand on parle de cœur, il n'y a pas de neutralité possible. Exode 19, 4, 6. Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Le but de Dieu, c'est une éducation avec lui. Laissez venir à moi les petits-enfants. Mais ce n'est pas seulement les petits, c'est laisser venir à moi tout le monde. C'est laisser venir à moi. Et donc, il est dit maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, si vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Donc là, le professeur Dieu, Père Dieu, l'aigle Dieu, il forme à la destinée de sacrificateur et de nation sainte dans le désert. Dans le désert. Dans cet épisode du désert, il y avait ces sacrificateurs déjà, et qui s'appelaient les Lévites. Et le rôle des Lévites, il est décrit par Moïse ainsi, Deutéronome 33, versets 8 à 11, « Car les Lévites ont gardé tes paroles, ils ont observé ton alliance, et ils font deux choses, les Lévites. » Donc les Lévites, ça veut dire les enseignants. D'accord ? C'était les enseignants. Regardez, ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Les nouveaux Lévites, ce sont les éducateurs chrétiens. Tout ce qui est ministère d'enseignement. Mais ils font une deuxième chose. Ils mettront l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Adoration. Bibliquement, l'enseignement n'est jamais séparé de l'adoration. Jamais. Vous avez une preuve, ceux qui étaient là, le séminaire magistral, quand on a eu ces séminaires, les équipes de louanges, Anne Jolie qui dirige la louange, par exemple. Je ne sais pas si vous imaginez, mais ça fait des décennies que c'est jamais arrivé que des directeurs d'école louent Dieu et adorent Dieu. Et la plupart des implantations d'école en francophonie, ce sont des équipes de louanges qui démarrent les écoles. C'est pour ça que vous assurez. Mon épouse et moi, c'était le premier ministère, c'était la louange. Et dans ces temps de louange, Dieu dit « enseigne ». Waouh ! Je croyais que c'était deux choses différentes. Mais c'est la même chose. En fait, nous sommes appelés à former des adorateurs qui reconnaissent Dieu et qui aiment Dieu avec toutes leurs pensées, dans tout ce qu'ils voient, dans tout ce qu'ils font. Ça, c'est l'adoration. L'adoration, ce n'est pas seulement le chant. L'adoration, c'est reconnaître Dieu dans toute la création et dire merci. Ça s'appelle former des adorateurs. Le but des écoles chrétiennes n'est pas de former des petits gentils chrétiens, c'est former des adorateurs qui font la guerre. Et n'a besoin pour ça de lévites, enseigner, adorer. Ça, mes amis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous sommes qu'au tout début. En tant que peuple de Dieu évangélique, nous devons considérer que l'adoration, elle commence par le chant, mais elle déborde sur toute la culture. Parce que la culture, c'est un culte qu'on doit donner à Dieu. Toute culture est l'expression d'une adoration. Le problème, c'est à qui ? Alors on arrive, ce peuple sort d'Égypte, il est conduit par Moïse et il arrive au Sinaï. Et là, Israël reçoit le don de la parole, la Torah, les 10 commandements. Dieu parle et Dieu donne. Et ces commandements, ils sont donnés pourquoi ? Pour que le peuple reste libre. Ils étaient en Égypte, il y avait plein de dieux. Esclavage. L'esclavage. Adorer Dieu ici, Dieu là, les grenouilles, les machins, c'était compliqué quand même cette adoration. Dieu dit, moi je vais te libérer, hein. Tu m'adores moi seul, tu es libéré de tous les autres là. C'est les commandements de Dieu, c'est pour rester libre. C'est ça le truc. Reste, tu ne voleras pas parce que je ne veux pas que tu sois coincé dans le vol. Donc tu ne voleras pas, tu vas honorer parce que je veux que tu sois heureux. Je veux que tu t'éclates dans la vie. Donc tu vas honorer les gens, etc. etc. Rester libre. D'ailleurs Dieu dit, je suis le Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, qui t'ai libéré. Alors je te donne des commandements pour que tu restes libre. Et une éducation chrétienne est une éducation qui affranchit, parce qu'elle met au contact les enfants de la vérité, et c'est la vérité qui affranchit, et la vérité seule qui affranchit. L'erreur n'a jamais formé quelqu'un. Jamais. L'erreur, les mensonges, déforment toujours. Mais la vérité, elle affranchit. Et il y a des tas de gens qui pensent qu'il faut qu'on soit formé au discernement, par l'erreur, c'est très bon l'erreur, ça va te permettre de connaître le monde dans lequel tu es, tu vas pouvoir discerner, mais tu discernes rien du tout, parce que tu vas apprendre à penser comme on pense. Et Dieu dit, sors d'Égypte maintenant. Mais le but de l'école, c'est pas qu'on sorte d'Égypte. Le but, c'est pas la sortie d'Égypte. Le but, c'est de rentrer dans la terre promise. Donc, l'école chrétienne, c'est pas un but, c'est loin de là, c'est ce moyen. Donc voilà, dans Exode 20, on voit ces 10 paroles qui sont données, les commandements, et puis Israël qui répond. Exode 24, 7. Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons, nous le comprendrons. Et puis chaque année, en se rappelant cette fête, les Juifs se rappellent de ce renouvellement de la promesse. Et donc c'est une fête qui est joyeuse, parce que quand ils vont rentrer ensuite en terre promise, ça va être la fête des moissons, c'est pareil, ça va correspondre. Faites des moissons, faites de la Torah, tout ça. Mais toute cette école du désert, c'est pour nous, ça nous parle de comment Dieu éduque. Voyez, Dieu éduque toujours en mettant à part celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. L'abri, c'est très méprisé aujourd'hui. Hein. L'abri, on n'aime pas, c'est pour les filles, on va dire, les garçons, c'est les efféminés, vous voyez. L'abri, non, si tu veux être un homme... Il ne faut pas te mettre à l'abri. On va te mettre dans une équipe de rugby. Là, tu vas cogner. Tu vas te cogner, ça va faire un homme. Mais ce qui fait un homme, mes amis, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la personne de Dieu. Il y a des gens, il faut qu'ils se frottent à la réalité. Question philosophique, c'est quoi la réalité ? Ah ben oui, la réalité, ce n'est pas ce que tu vois. Il n'y a qu'une réalité qui dure toujours, c'est Dieu. Et se frotter à la réalité, c'est se frotter à Dieu et à sa parole éternelle. Et c'est ça qui forme des hommes et des femmes qui peuvent avoir ce rôle prophétique, parce que Israël, en recevant la parole, commençait à rentrer dans une dimension d'être prophète pour les nations. Et cette parole qui a béni les nations, ça a commencé par ça. Et Dieu qui conduit ce peuple dans le désert, il a dit ceci par Osée, chapitre 2, verset 14. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer, la conduire au désert, il parle d'Israël comme une femme, et je parlerai à son cœur. Parce que dans le désert, il n'y a pas d'autre voie. Et Dieu voulait un cœur à cœur avec Israël, comparé à une princesse. Et cette princesse qu'on verra dans le livre d'Ézéchiel, lorsque dit, voilà, tu étais nue, tu étais abandonnée, et moi j'ai fait de toi une princesse, je t'ai revêtue de linge, je t'ai donné des ornements sacrés, j'ai fait de toi une princesse. Une éducation chrétienne, c'est lever de la boue et de la terre et faire des princes et des princesses. Et Dieu, il voit ça et ça commence par attirer à lui, conduire au désert. Mon fils, donne-moi ton cœur. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. L'école du désert, c'est cette école une parabole de l'éducation. Et quand on regarde un peu, on ne va pas aller dans le détail, mais relisez tout ce passage de l'Exode, vous allez voir comment Dieu éduque ce peuple. Et vous avez, il répète souvent le Seigneur, mais en même temps c'est très varié. Il prend en compte les situations individuelles. Vous avez des tests, on redouble dans le désert. Ah bon, tu comprends pas ? Ok, bah tu refais un tour, voyez ? C'est ça, voilà. Tu refais un tour. Tu comprends pas qu'il faut éduquer les enfants, qu'il faut des écoles chrétiennes et des universités chrétiennes ? Ok, bah refais un tour. Refais un tour. Et le Seigneur nous dit, hey, il faut se lever un peu, se réveiller. Il met en place des fêtes. Des fêtes ! La fête à l'école. Dieu est un Dieu qui aime la fête, la célébration, la reconnaissance. Voilà. Ça manque de fêtes dans les écoles. Ça manque de joie, tout simplement. Le signe du royaume, c'est la joie. Et vous savez qu'aujourd'hui, on en parlait hier, les dernières recherches au niveau éducatif, etc., dernières découvertes de fonctionnement de cerveau, etc., il faut la joie. Tiens, ils ont trouvé ça maintenant, tu sais, après des années d'études, il faut de la joie. Ben oui, mais nous, on le sait déjà, ça. Il faut de la joie. Et non seulement on le sait, mais Dieu nous la donne. Eh oui, Dieu nous la donne et Dieu nous dit, sois toujours joyeux. Voilà, donc il met en place des projets, le Seigneur, le tabernacle, magnifique projet corporatif de la classe. Voilà, les élèves, on va faire le tabernacle, ça va être génial. On va faire le temple aussi plus tard. Mais les gens, ils n'avaient pas tellement le choix hein, de la longueur, la largeur. Dieu avait donné des... Il y avait un plan. Et l'éducation, il y a un plan. Les gens, ils pensent que, tiens, je vais éduquer, les enfants, c'est comme des carottes, tu plantes, tu laisses pousser, tu verras, ça revient, ça va tout seul. Mais non, Dieu dit, il y a un fondement, c'est Dieu. Et le fondement, la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Le but de la connaissance, c'est la connaissance de Dieu. Tu n'enseignes pas sans la foi. Dieu a donné des principes. Et puis, on est dans un monde aujourd'hui où c'est comme si on s'en foutait, quoi. Je veux dire, mais Dieu, attention, Dieu est un Dieu qui bâtit. Et il nous dit, mais bâtis comme moi je veux qu'on bâtisse. Donc voilà le tabernacle, il a utilisé aussi beaucoup la notion de questions, réponses, la discipline aussi dans le désert, c'est pas toujours simple. Et puis aussi le côté des émotions, et puis tous les sens, les odeurs, les cris, le feu, voilà. Dieu est un Dieu qui éduque, et cette école du désert, elle a d'un peuple qui s'était centré sur lui-même, hein, sur son « moi », on est malheureux, on est dans le désert, on n'a rien à bouffer, c'est toujours pareil, vous voyez, qui se plaint toujours. Tout d'un coup, ça devient un peuple qui ne se plaint plus. L'éducation était bonne, temps de Josué, go, on y va, c'est pareil. Donc nous, en France, il y a beaucoup de progrès encore, parce qu'on aime beaucoup se plaindre, il y a besoin de beaucoup de formation. Voilà. Mais Israël a reçu cette Torah, il est devenu prophète, donc, et il a pu rentrer en conquête de Canaan, et là vous avez une discipline, vous avez un ordre, chaque tribu est dans l'ordre, Josué dit on y va, enfin, c'est impressionnant, et voilà. Et donc à la Pentecôte, nous arrivons maintenant à la Pentecôte dans Acte 2, qu'on célèbre aujourd'hui, et qu'est-ce qu'ils faisaient les disciples dans la chambre haute ? Vous savez que la tradition des Juifs voulait que pendant la nuit de la Pentecôte, vous savez ce qu'on fait, la nuit on ne dort pas. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire s'ils ne dorment pas ? Eh bien, la tradition veut qu'on étudie la Bible toute la nuit. Waouh ! Donc les disciples, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la chambre haute ? Eh bien, en tant que bons juifs, ils célébraient, ils louaient Dieu, mais ils étudiaient la parole. Et probablement, les textes comme Joël chapitre 2, les textes prophétiques, etc., dans l'attente de l'Esprit. Et c'est comme ça que le discours de Pierre, ensuite, qui s'appuie sur les Écritures, il sortait d'une nuit d'études bibliques, quoi, de lecture, de méditation. Donc il était rempli, et son discours est rempli. Quand il dit, voilà, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, c'est la troisième heure du jour, mais c'est ici ce qui a été appelé par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles, tout de suite, la génération. C'est incroyable. La Pentecôte, c'est les fils et les filles. Vous voyez, nous on dit, mais c'est nous. Non, la Pentecôte, c'est vos fils et vos filles aussi prophétiseront. Ils auront des visions, vos vieillards des songes. Oui, sur mes serviteurs, mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, ils prophétiseront. Prophétiser, c'est parler ce que Dieu dit. D'accord ? L'éducation chrétienne est un discours de Dieu sur tous les aspects de sa création. L'histoire, les sciences, la géographie, les lettres, la grammaire, toute la création parle de Dieu. Un programme scolaire, je ne connais aucun programme scolaire ou universitaire qui ne parle pas d'un domaine de la création. Et quelle prétention de vouloir enseigner ces domaines en refusant l'auteur de la création. Et je disais il y a deux jours, mais si on refuse l'auteur, on n'a plus d'autorité. C'est très simple. Dieu dit, si tu es soumis à l'autorité, tu as l'autorité. Si tu n'es pas soumis à l'autorité, tu n'as pas d'autorité. L'autorité pour enseigner, elle ne vient pas des diplômes, elle ne vient pas de l'excellence académique, elle vient de la soumission à Dieu et au Christ, qui est le seul maître et le grand enseignant qui veut enseigner au travers de chacun de nous. Donc à la Pentecôte, voilà, acte 2, plus loin, repentez-vous. Ça veut dire changer de pensée. Hein. Ça aussi, c'est l'éducation de Dieu. Changer de pensée. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez, donc, repentance, don du Saint-Esprit. Changer de façon de penser. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Décidément, les enfants, ils ont toute leur place dans ce jour de Actes chapitre 2. Donc, c'est toujours cette histoire. Dieu a choisi le jour où l'on se rappelle le don de la parole pour mettre son esprit. Et ça il montre qu'il n'y a pas d'esprit sans parole, il n'y a pas de parole sans l'esprit. Les écoles chrétiennes sont des écoles de la parole. Et cette parole, elle est ce qui fait autorité, elle est ce qui change les vies, elle est ce qui donne le sens et ce qui donne d'interpréter le monde comme Dieu veut qu'on l'interprète. La personne du Saint-Esprit que Jésus a promise et qui est déversée, il a dit ceci, vous connaissez, hein, dans Jean, il rappellera tout ce qu'a dit et enseigné Jésus. Ensuite, il leur enseignera toutes choses. C'est pas, il leur enseignera sur les choses spirituelles, voyez, les choses de la Bible. Non. Il enseignera toutes choses. Il n'y a pas de sacré et profane avec Dieu. Hein. Toute la terre lui appartient. Donc, le Saint-Esprit, c'est le plus grand des pédagogues. Il veut travailler avec nous. Et l'atout d'un éducateur chrétien, c'est qu'il peut travailler avec le Saint-Esprit. Oh, mais quel, mes amis, c'est le jackpot, là. Le Saint-Esprit, le plus grand des pédagogues, il vit en toi. Il est là. Et Dieu dit, enseigne, laisse-le sortir, là. Et laisse-toi enseigner par lui, et laisse le Saint-Esprit enseigner. Et il est dit, il les conduira dans toute la vérité, Jean 16. Le Saint-Esprit conduit. Pédagogue, éducateur, le Saint-Esprit. Ce n'est pas étonnant que dans ce vaste combat spirituel qu'on vit, il y a des gens un peu tordus qui ont dit on ne veut plus de Bible dans les écoles. Et en France, avec Jules Ferry, c'était très clair. Hein. Quand quelqu'un lui a dit c'est quoi ton ambition politique, c'est Viviani, un homme politique, un protestant aussi, du 19e, et quand il répond cette phrase fameuse que j'ai découvert, mais ça a été comme un coup de boutoir, mon ambition politique, c'est de bâtir une société sans Dieu et sans roi. Première chose qu'on fait, on enlève la Bible des écoles. Et nous, Église du Seigneur, on remet la Bible dans l'école. Voilà, on se fâche un peu. On se fâche. Hein. On dit, ça ne va plus maintenant, il y en a marre. Et surtout quand on sait, on parlait des Huguenots tout à l'heure, le prix qu'ils ont payé pour qu'il y ait la Bible dans les salles de classe. Quand ces milliers d'écoles protestantes ont reçu la menace de fermeture s'ils n'enlevaient pas la Bible de la salle de classe, c'est Louis XIV. Hein. Et ces milliers d'enseignants huguenots, institutrices, instituteurs, qui ont refusé, qui ont dit, nous, on en refuse d'enseigner sans la parole de Dieu. Et ça a été des emprisonnements, des morts par centaines. Le prix que la francophonie a payé pour que la Bible soit dans la salle de classe, mes amis. Rappelons-nous ce prix. Et je pense que si aujourd'hui, ce mouvement d'école y renaît, c'est entre autres parce qu'il y a un prix qui a été payé en France, en Suisse. Et Dieu voit ses semences. Et nous sommes les héritiers de ceux qui ont dit « on refuse d'enseigner ». Sans la parole de Dieu. Donc, voyez, l'Esprit de Dieu, 2 Timothée, votre livre fétiche, chapitre 1, verset 7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Et dans les Écritures, l'Esprit de Dieu, il est caractérisé souvent comme esprit de sagesse et d'intelligence. Et c'est là le cœur au fond de l'éducation, c'est transmettre cet esprit qui est un esprit qui donne la sagesse et l'intelligence. Une intelligence qui grandit sans Dieu, c'est pas une intelligence selon Dieu. L'intelligence selon Dieu, c'est reconnaître Dieu. La sagesse selon Dieu, c'est reconnaître Dieu. La folie, c'est dire qu'il n'existe pas. Tu peux avoir un QI top niveau, avoir 15 ans d'études après le bac et dire que Dieu n'existe pas. Vous savez comment Dieu t'appelle ? Un fou, un insensé. Il a perdu le sens. Dieu veut redonner à une génération qu'il veut former des hommes sages, des hommes et des femmes qui ont cet esprit de sagesse et d'intelligence. Exode 31, on revient dans le désert, pour le tabernacle. « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit. » Alors pour faire quoi ? Pour chanter des cantiques seulement, ou je sais, pour prophétiser ? Non, mais je l'ai rempli d'esprit, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages, pour bosser, quoi, pour être artisan. Là, Dieu nous montre que l'esprit, il n'y a rien de sacré profane. Tout est sacré pour Dieu. Et on a besoin de son esprit pour le manuel, pour l'intellectuel, pour toutes les dimensions de la vie. Ésaïe 11, 1-3. « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. » Esprit de quoi alors ? De sagesse, hein, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. L'accent que les Écritures mettent tout au long des Écritures sur l'intelligence et la sagesse, mes amis, je ne connais aucune religion au monde qui mette un tel accent sur l'importance de réfléchir, de méditer, de développer l'intelligence, pas de façon autonome, avec Dieu. La raison que Dieu a donnée à l'homme, quand elle travaille sans Dieu, elle est malade. La raison francophone a été blessée, meurtrie, elle est malade. Mais Dieu dit la raison, elle doit se réveiller. Et c'est la révélation qui réveille la raison et qui la fait s'activer. Quand on marche avec Dieu, toutes les facultés, comme on l'a entendu dans le témoignage, sont boostées. Parce que Dieu n'a pas prévu qu'on éduque sans la foi. La foi, elle amène de la guérison. La foi, elle amène de la restauration. La foi, elle amène le plein potentiel pour un enfant. C'est pour ça que Dieu n'a jamais prévu qu'on éduque sans la foi. Et c'est pour ça que Genève, avec l'académie à côté, qui comme par hasard a été restaurée il n'y a pas longtemps, toute neuve, toute belle, Dieu parle, je pense, au travers de cette restauration physique, que Dieu veut une restauration spirituelle pour les nations. Et vous, Genève, vous avez une sacrée responsabilité aussi, parce qu'il y a un sacré puits. Alors, juste quelques mots par rapport à cette transmission au niveau de l'esprit, de sagesse et d'intelligence. C'est 1 Chroniques, chapitre 22, versets 5 à 12. J'illustre, là on a parlé de Dieu qui conduit son peuple, on a parlé de l'esprit de Pentecôte, qui est aussi l'esprit de sagesse et d'intelligence. Et là, on va parler de la vision de David pour Salomon. David disait, « Mon fils Salomon est jeune, d'un âge faible. La maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. » Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. Et David appela Salomon, son fils, lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, « Mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, mais la parole de l'Éternel m'a ainsi été adressée. Tu as versé beaucoup de sang, tu as fait de grandes guerres, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour, car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils, je serai pour lui un père, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères, que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse, de l'intelligence, et te faire régner sur Israël, dans l'observation de la loi de l'Éternel, ton Dieu. Donc là, je trouve que c'est un passage extraordinaire, un passage prophétique aussi pour aujourd'hui. Une génération de David qui doit lever une génération de Salomon. La vision de David, c'est la maison de Dieu. C'est la maison, la renommée de Dieu. C'est pour ça qu'il a éduqué. Quelle est la motivation de l'éducation ? Jésus, c'était la compassion. Et David, c'est la renommée de Dieu sur le pays. La vision des écoles chrétiennes, c'est une vision pour le pays. C'est une vision pour les nations. C'est une vision pour la renommée de Dieu. Et ce n'est pas sa renommée, sa propre destinée personnelle seulement. C'est la renommée de Dieu. Ça, c'était le cœur de David. Et donc, c'est le cœur de Jésus qui a dit « Allez, mon Église, enseigne les nations. » La renommée de Jésus, le mandat d'enseignement, c'est cette renommée de Dieu et de gloire. Et c'est aussi, on voit aussi une vision pour son enfant. Lorsqu'il est dit, de David, voilà, il te naîtra un fils, il sera un homme de repos. Et donc, une vision que Dieu donne à Salomon. Et regardez combien de fois ça revient. Mon fils, que l'Éternel soit avec toi, mon fils. Et puis Dieu qui dit, je serai pour moi, il sera pour moi un fils, je serai pour lui un père. Qu'est-ce que ça montre, ça? Ça montre qu'une éducation selon Dieu est une éducation filiale, paternelle, maternelle, d'affection. Et c'est ça qui est le plus fort rempart à tous les extrémismes, à toutes les choses déviantes, d'identité, etc., qui ne permettent plus de bâtir et d'être pertinent dans une société. Dieu veut lever des fils, il a besoin d'écoles, et il ne choisit que des pères et des mères, parce qu'il n'y a que eux qui peuvent lever des fils et des filles. Si tu es bourré de diplômes, mais tu n'as pas un cœur de père, tu ne peux pas lever un fils. Et Dieu a prévu de lever des fils et des filles. On l'a encore entendu ce matin, pendant aussi ce temps de louange. Donc voyez, vision pour le royaume, vision pour l'enfant, ça sera un homme de repos, shalom. Et shalom, dans la Bible, c'est plus que simplement la paix, comme on l'entend nous. C'est la prospérité, c'est la restauration, c'est la guérison, c'est tout ça. Et Dieu a choisi, ça c'est le mystère, de prendre les choses faibles, les enfants en particulier, pour guérir les nations. Et c'est pourquoi cette vision-là, elle est tellement importante, vision éducative. C'est pour ça qu'il va bassiner son fils Salomon pendant tout le livre des Proverbes. Écoute mon fils, écoute mon fils, écoute mon fils, reçois la sagesse. Sans arrêt, sans arrêt. Recherche ta sagesse. Donne tout ce que tu as pour rechercher l'intelligence. C'est quand même, je ne connais pas un autre livre qui honore autant la formation intellectuelle, la recherche d'intelligence. Je ne connais pas. C'est une célébration de la formation intellectuelle avec Dieu, bien sûr. Et nous, cette relation éducative, elle est extraordinaire. Je rappelle ce Don Bosco, un prêtre catholique. Souvent, ça m'a touché ce qu'il disait. Sans affection, il n'y a pas de confiance. Et sans confiance, il n'y a pas d'éducation. Seule l'affection peut engendrer la confiance, c'est-à-dire la foi. Donc, transmettre la sagesse, c'était ce que David avait comme mission chez Salomon. Et quand Salomon, vous savez, s'est levé, il a reçu cette sagesse parce qu'il l'a demandé. Et vous savez, quand Dieu, on connaît l'histoire, hein, ce que tu veux, je te donne tout, tu veux de la richesse, je te donne. Non, moi je veux la sagesse. Parce que son papa lui avait tellement dit que c'était le plus précieux qu'il a fini par le croire. Et puis il a demandé à Dieu. Et Dieu a dit, écoutez, je ne connais pas d'autre réponse extraordinaire que celle de Dieu. Parce que tu ne m'as pas demandé le reste, mais tu m'as demandé la sagesse. Alors moi, je vais te donner non seulement ça, mais tout le reste. Une génération qui est formée dans la sagesse de Dieu, non seulement elle bénéficiera de cette sagesse, mais elle bénéficiera de tout le reste. Et ça, l'héritage, c'est le reste. L'héritage, c'est la terre. L'héritage, c'est les nations. L'héritage, c'est les différentes montagnes, éducation, médias, économie, etc. Non pas pour les nouvelles croisades, mais pour servir l'humanité avec ses dons et avec une espérance et une vision. Donc, voyez, transmettre cette sagesse d'en haut, d'aspect très pratique, et au fond, cette sagesse, elle est tellement précieuse pour Dieu, tellement précieuse pour Dieu, que je rappelle, excusez-moi de me répéter, je suis grand-père maintenant, donc j'ai le droit, il n'y a pas de problème, je répète, voilà, elle est tellement précieuse que Dieu a choisi d'envoyer son fils mourir sur une croix. Parce que la croix de Jésus, ce n'est pas seulement le lieu où l'on est racheté de nos péchés. La croix de Jésus, c'est le lieu où tout ce qu'il a, il nous le donne. Il a été fait justice, sanctification, rédemption, sagesse pour nous. Mépriser la sagesse, mépriser l'enseignement de la sagesse, c'est mépriser l'œuvre de la croix. Et là, je sais ce que je dis. Pendant tellement longtemps, j'ai célébré, et on n'aura jamais assez célébré, le fait que Jésus soit mort pour nous, pour nous laver de nos péchés, tout ça. Mais c'est bien plus que ça. Il est mort et ressuscité pour nous communiquer une sagesse. Et la Bible dit dans Proverbe chapitre 4, recherche la sagesse et tu recevras une couronne. Le règne avec Dieu dépend de la couronne qu'on reçoit. Et tant que l'Église, son but sera le vêtement blanc, on fera des sauvés, mais pas des disciples. Et quand le but de l'Église deviendra de lever des gens, des jeunes gens et des jeunes filles, sur lesquels on pourra mettre une couronne, à ce moment-là, une génération pertinente règnera avec le Christ. Et il y en a assez des couronnes d'épines que les générations se trimballent, des épines dans le front de toutes les philosophies de ce monde qui asservissent le gender, la dernière là, en vogue. Ça n'arrête pas. Et Dieu dit, vous ne pouvez pas dire ça suffit un moment là. Et se lever, et en tout cas cette école Timothée, c'est un trésor que Dieu vous confie en tant qu'église et groupe d'église libre de Genève. Et s'il n'y avait que ce trésor-là, ça justifierait tous les efforts, toutes les prières, toutes les intercessions. Parce que si vous perdiez ce trésor-là, vous perdriez tout. Et ce potentiel de cette école Timothée, qui est comme une graine à Genève, elle est appelée à grandir, à grandir. Et c'est la mission de l'Esprit qui a libéré les prophètes comme Élisée, dont un des actes a été de se coucher sur un enfant mort. Parce que cet enfant de la Tsunamite, à un moment, il voulait rejoindre son père, et au milieu du trajet, la Bible nous dit qu'il prend sa tête et il dit « ma tête, ma tête ». Et il revient mourir sur les genoux de sa maman. Ça nous parle d'une génération appelée par Dieu, qui veut rejoindre le Père et les œuvres de Dieu, mais qui a tellement d'épines dans la tête, de raisonnement, de façon de penser, déconnectée de la foi et de Dieu, qui meurt. C'est une mort pas physique, c'est une mort à la destinée et au ministère. Heureusement qu'Élisée était là. Et les gestes qu'il a faits, c'est les gestes de l'Église. C'est les gestes. Nous sommes aujourd'hui jour de Pentecôte. L'Esprit de Dieu nous a été donné. Nous sommes les prophètes de Dieu. Élisée, qu'est-ce qu'il a fait sur cet enfant mort? Il se couche sur lui. Il met sa bouche sur sa bouche. C'est la parole. Tu y arriveras. Tu as de la valeur. Voilà ce que Dieu dit de toi. Blanc, la vérité, la parole, bouche sur la bouche, ça ne suffit pas. Les yeux sur les yeux, autre vision du monde, autre vision de la vie, autre vision de Dieu sur le monde, ça ne suffit pas. Les mains sur les mains, le modèle, ce que je suis, ce que je fais, fais-le. Les mains sur les mains. Il s'est couché sur lui. Abandon des positions de prestige, abandon des ambitions personnelles, humilité, on se couche sur une génération. Et au bout d'un moment, l'enfant s'est relevé. Nous avons, dans cet esprit prophétique d'Élisée, nous avons une parabole de l'éducation. Et je termine avec ce passage d'Ésaïe 61 sur l'esprit encore. Et je relis avec vous, versets 1 à 7. L'esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, dit Jésus aussi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand cœur brisé, attention, vision biblique du cœur, la pensée brisée. C'est tout ça aussi. Hein. Voilà. pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème, couronne, au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Petite parenthèse, ici à côté, les catéchismes de Calvin, dans toutes les milliers d'écoles protestantes du XVIe siècle, les enfants apprenaient à quoi sert, c'est quoi la vie ? À quoi sert la vie ? La vie humaine, c'est pour servir Dieu et lui rendre gloire. Vision du monde, anthropologie biblique. Et on continue, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Et souvent, on s'arrête au verset là, juste avant, mais non, l'Esprit de Dieu nous est donné pour rebâtir sur d'anciennes ruines, relever les antiques décombres, renouveler les villes ravagées, dévastées depuis longtemps, les Genèves dévastées depuis longtemps. L'Esprit de Dieu nous a été donné pour rebâtir et reposer les fondements. Et alors il est dit, des étrangers seront là, feront paître vos troupeaux, des fils d'étrangers seront vos laboureurs, vos vignerons, mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteur de Dieu. Vous mangerez les richesses des nations. Vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Seigneur, merci pour ce jour de Pentecôte. Merci pour l'Esprit, Seigneur. Le don de ta parole en même temps que le don de l'Esprit. Et le don de Jésus, parole faite chair, Seigneur, que cette parole faite chair puisse rentrer, pénétrer toutes les structures éducatives, universitaires. Seigneur, et alors que nous marchons pas à pas, nous croyons que tu fais grandir l'autorité, le métrone, les limites d'autorité, elles grandissent, elles s'élargissent. Et en même temps que tu as fermi, tu élargis les piquets. Et en tant qu'Église, Seigneur, ensemble, nous bénissons l'école Timothée. Nous prions pour un affermissement de la vocation, de l'espérance. Nous appelons les élèves à venir, qui sont appelés les familles à venir. Nous appelons déjà des futurs nouveaux locaux, Seigneur, afin qu'ils soient propriétaires. Et nous appelons le collège, le lycée et le domaine universitaire aussi à Genève, dans le nom de Jésus. Nous prions pour le corps de Christ, afin que la Pentecôte revienne, se déverse et que l'esprit de sagesse soit transmis à une génération de princes et de rois pour régner avec toi, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Et nous sommes d'accord avec ce que tu fais. Nous disons, nous alignons avec ta volonté. Et nous sommes là, nous persévérerons, Seigneur, jusqu'à ce que les puits soient débouchés. Si ça prend 10 ans, 20 ans, Seigneur, on continue. On est là jusqu'à ce que l'eau, elle coule dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Amen.